28 janvier 1871, les Prussiens ont gagné. Après 135 jours de siège, Paris sera bientôt ravitaillé. 2 millions de personnes sont restées dans la capitale, dans une ambiance électrique. La faim, le froid, les bombardements et surtout les divisions politiques qui dégénèrent en guerre civile. Nous allons revenir sur cet épisode majeur de la guerre de 1870 avec le journaliste Frédéric Mounier qui vient de publier un livre très documenté sur le sujet aux éditions du Cerf, Le siège de Paris, une histoire française quand le peuple voulait la guerre. Bonjour Frédéric Mounier.
Bonjour.
Alors la guerre avec la Prusse a commencé en juillet 1870. Napoléon se rend à Sedan au tout début du mois de septembre. Après cette victoire, les Prussiens n'ont qu'un objectif, Paris. Pourquoi ?
Parce que Paris est la capitale de la France, Paris est la plus belle ville du monde, Paris compte près de 2 millions d'habitants. Il y a eu 3 ans avant l'exposition universelle, le monde entier s'y est rendu. Et donc, l'objectif du chancelier Bismarck et du roi de Prusse Guillaume Ier, il est double. Il s'agit d'une part, à travers cette guerre, de constituer l'unité allemande. Et on verra dans un instant que le 18 janvier 1870, dans la Galerie des Glaces, a été proclamé le Deuxième Reich. Et donc, il faut se souvenir que dans l'inconscient collectif allemand, l'Alsace et la Lorraine, c'était des possessions allemandes qui avaient été volées par Louis XIV. Et donc, dans le château de Louis XIV, à la fin du siège, donc, les Prussiens peuvent proclamer l'unité allemande. Les Prussiens voulaient affirmer leur victoire. Et pour affirmer leur victoire, la seule façon, c'était de faire rendre gorge à Paris.
Alors face à cette étoile montante de la puissance prussienne, nous avons une France qui se trouve dans une situation extrêmement incertaine d'un point de vue politique. L'Empire a disparu et le 4 septembre, on proclame la Troisième République dans des circonstances vraiment assez extraordinaires que vous racontez. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ?
Alors, il faut se souvenir que la population parisienne a été tétanisée par l'annonce de la capitulation à Sedan, puisque la population parisienne, comme toute la France, était persuadée que nous allions gagner cette guerre. La fleur au fusil, puisqu'il ne manquait pas un bouton de guêtre à nos uniformes, comme avait dit le maréchal Leboeuf, le ministre de la guerre. Donc la population est tétanisée, la population est inquiète, et il faut se souvenir que Napoléon III avait entrouvert la porte d'une certaine forme de libéralisme dans la vie politique. Et que donc un certain nombre de républicains, Jules Favre, Jules Ferry, Émile Ollivier, Adolphe Thiers et d'autres, avaient pu pénétrer à l'intérieur du système politique, notamment depuis le début de cette année 1870. Et donc ces républicains qui eux-mêmes ont été pris au dépourvu par la défaite, ils ont eu envie de mettre le pied dans la porte et de prendre le pouvoir, de proclamer la déchéance. Mais en même temps, il n'était pas tout seul, parce qu'il n'y avait pas que des républicains, disons, libéraux. Il y avait aussi des républicains radicaux. On peut, au risque de la comparaison, on peut faire la comparaison avec les Gilets jaunes. Il y avait des républicains radicaux qui voulaient vraiment prendre le pouvoir et imposer un pouvoir de type révolutionnaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce fameux dimanche 4 septembre 1870 ? Eh bien, il faisait très beau, c'était l'unique jour de congé de la semaine. Donc tous les Parisiens ont conflué vers le Palais Bourbon, qui s'appelait à l'époque le corps législatif, et puis à la fois pour venir aux nouvelles, et puis à la fois pour pousser l'histoire, et pour proclamer la République. La question, c'est quelle République ?
Et alors, à ce moment-là, l'ennemi approche. Il y a une sorte de coïncidence qui est absolument incroyable.
Alors, les Prussiens étaient encore loin de Paris le 4 septembre, puisque Paris a été vraiment bloqué. La dernière ligne de chemin de fer qui permettait de sortir de Paris a été bloquée 10 jours plus tard, le 15 septembre. Mais à ce moment-là, donc, la foule a envahi le Palais Bourbon. Et donc, c'est Jules Favre et Léon Gambetta qui ont pris l'initiative de déplacer le lieu du conflit politique possible, parce qu'ils se souvenaient de février 1848. Ils se souvenaient d'une prise de pouvoir révolutionnaire et insurrectionnelle. Ils se souvenaient qu'à la tribune du Palais Bourbon, Edmond Barbès avait exigé l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les riches. Et donc, ils se sont dit, on va détendre l'atmosphère. Et donc, ils sont partis à pied Jules Favre est parti sur la rive gauche, le long du Louvre, et puis Léon Gambetta est parti sur la rive, enfin l'inverse, chacun sur une rive. Ils sont partis vers l'Hôtel de Ville.
À l'Hôtel de Ville.
L'Hôtel de Ville, qui était le siège de la, municipalité parisienne. Et heureusement qu'ils y sont allés, puisque nos amis les Républicains radicaux avaient déjà, d'une certaine façon, proclamé la République, ils avaient déjà construit leur propre gouvernement. Et donc, ce sont les vrais élus du peuple, à ce moment-là, qui ont pris possession de l'Hôtel de Ville et qui ont proclamé la République. Il faut savoir que cette proclamation de la République, le 4 septembre 1870, s'est faite sans aucune effusion de sang.
Et du coup, qui tient le pouvoir à partir de ce moment-là ?
Alors, qui tient le pouvoir ? Ce qu'on appelle le gouvernement de la Défense nationale, c'est-à-dire une dizaine de, républicains, certains déjà âgés, certains avaient connu 1848, des républicains forcément qui sont inexpérimentés en matière de gestion, en matière de pouvoir, puisque l'Empire durait depuis 1851. Et donc, ils ne savent pas quelle sera l'issue de la guerre. Ils se demandent un peu par quel bout prendre ce conflit. Ils sentent bien que le peuple pousse vers la République. Donc, ils constituent... Ce sont des députés de la Seine, des députés de Paris. Ils constituent le gouvernement de la Défense nationale. Et tant bien que mal, ils vont prendre les rênes du pouvoir et pendant 135 jours, gérer la France et gérer Paris.
Et alors, la ville de Paris est-elle prête à affronter un siège ?
Alors, la ville de Paris est ceinte d'une double ceinture de fer. Très rapidement, les 250 000 hommes de l'armée prussienne vont l'entourer et la verrouiller. Et puis, il y a la ceinture des fortifications qui a été construite par Adolphe Thiers en 1840. Et donc, les Parisiens sont persuadés, à tort, c'est une illusion, mais ils sont persuadés que ces fortifications vont les protéger et que ces fortifications vont pouvoir leur servir de base pour attaquer les Prussiens. Et donc, la plupart d'entre eux, notamment les radicaux, ont en tête l'exemple des soldats de l'an 2, de la levée en masse, des sorties torrentielles. Et donc, ils pensent que, comme il y a beaucoup d'hommes dans Paris et beaucoup d'hommes armés, puisqu'il y a la garde nationale, et donc vous avez tous les citoyens qui sont armés, et donc un certain nombre des Parisiens se disent « on va y aller ». Et donc, on va pouvoir remporter la guerre contre les Prussiens. On va pouvoir sauver Paris. Il suffit de sortir. Il suffit d'aller au-delà des fortifications. Et nous allons remporter une victoire. Malheureusement, ils étaient certes armés, mais pas du tout formés, très peu commandés. Et toutes les tentatives de sortie qui ont eu lieu pendant ces 135 jours de siège, jusqu'à la dernière à Buzenval, le 19 janvier, se sont soldées par un échec absolu.
Alors, pour bien comprendre, vous parlez d'hommes armés. Il y en avait de trois sortes, des militaires, des gardes mobiles et la garde nationale. Qui était chacun de ces corps ?
Alors, c'était extrêmement disparate. Un certain nombre de vrais soldats, de vrais militaires avaient pu s'échapper du désastre de Sedan. Et donc, ils avaient rejoint la capitale. D'autres de ces hommes en armes étaient des citoyens parisiens qui recevaient une solde de 1 franc 50 par jour. Ils étaient armés et donc pendant les 135 jours de siège, on leur a appris à marcher au pas, on leur a appris à passer la nuit sur les remparts pour surveiller. Et puis il y avait aussi des mobiles venus notamment de Bretagne, venus des provinces françaises. Beaucoup d'entre eux ne parlaient pas français, il faut se rappeler ça. Et donc, on leur avait demandé de venir ici pour défendre la capitale. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, ça a été très, très difficile, voire impossible pour eux. Mais lors de deux tentatives de coup d'État qui ont été tentées par les républicains radicaux le 31 octobre 1870, puis le 22 janvier 1871, ils ont tenté d'assiéger l'Hôtel de Ville et de jeter dehors par la force le gouvernement de la Défense nationale, ce sont ce qu'on appelait les mobiles de province, et en particulier des Bretons, qui ont pu sauver la République.
Parce que pour bien comprendre, en fait, il n'y a pas de véritable unité du côté des assiégés. On soupçonne vraiment le gouvernement de vouloir trop négocier avec l'ennemi, ce qui pose quand même problème.
Alors, il faut se souvenir que d'abord, une grande partie des Parisiens, notamment ceux de l'Ouest, avaient fui la capitale avant que la capitale ne soit encerclée. Tous ceux qui avaient des maisons à la campagne, des châteaux, des résidences secondaires, comme on ne disait pas à l'époque, ils avaient fui. Donc ne se trouvaient à Paris que ceux qui n'avaient pas les moyens de partir. Et puis se trouvaient à Paris aussi ceux qu'on avait fait rentrer dans la capitale, puisqu'ils étaient en Île-de-France et que donc on voulait leur épargner le sort de l'occupation prussienne. Donc voilà, donc il y avait cette masse populaire qui était là, qui était disparate, qui était inquiète, et qui finalement, très rapidement, en a voulu au gouvernement, en disant « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Vous savez, c'est toutes choses étant égales par ailleurs, c'est un petit peu comme avec la pandémie aujourd'hui. Mais que fait le gouvernement, hein ? C'était « le gouvernement est mal organisé, le gouvernement ne prend pas les bonnes mesures, et le gouvernement ne continue pas la guerre ». Alors, une partie du gouvernement, sous la houlette de Léon Gambetta, s'est envolé en ballon de Paris et puis est allé à Tours pour présider la délégation du gouvernement de la Défense nationale à Tours, et puis a essayé de prendre les choses en main, de mener quelques offensives, mais l'armée française était tellement désorganisée que ça n'a pas pu aboutir. Et donc voilà, la population parisienne, elle bouillonne, elle est énervée, elle est inquiète, puis elle a très très froid. Il a fait moins 15 degrés pendant plusieurs semaines durant cet hiver-là. Il n'y a plus de chauffage. Il n'y a pas de chauffage central à l'époque, évidemment. Donc, il faut du bois. On coupe les arbres du bois de Boulogne. On souffre, on a froid, on a faim. On ne sait plus à quel saint se vouer. On n'a pas confiance dans le gouvernement. Et donc, voilà, toutes les conditions pour un soulèvement révolutionnaire sont réunies.
Et c'est une énorme pression pour ce gouvernement qui doit faire ses choix militaires en fonction et parfois de façon un peu déraisonnable d'une certaine façon, en tout cas. Alors, en termes de vie humaine et de risque pris.
Voilà, c'est une énorme pression, au point que lorsque Jules Favre est parti vers l'est de Paris pour aller tenter une médiation, une négociation avec le chancelier Bismarck, il l'a rencontré au château de Ferrières, un château construit par les Rothschild, un magnifique château qui existe encore aujourd'hui, construit par les Rothschild au milieu du Second Empire. Il sort clandestinement de Paris. Il monte dans un fiacre qui était l'équivalent d'un taxi. Il prévient à peine ses collègues du gouvernement. Il ne dit rien et il n'a qu'une peur, c'est d'être reconnu au passage des barrières par le peuple pour que le peuple lui fasse un mauvais sort. Et puis il va faire chou blanc. Il va s'effondrer en larmes devant Bismarck pendant cette conversation. On peut à peine parler de négociation. Et il va rentrer à Paris très triste. Et pourtant, il va proclamer un texte et un appel en disant « Nous ne céderons pas une once de nos fortifications, de nos murailles. » Voilà, et jouant sur le sentiment patriotique parisien, mais tout en sachant, lui, en son fort intérieur, que la cause était perdue et qu'il faudrait bien un jour ou l'autre signer l'armistice.
Mais politiquement, à ce moment-là, il était impossible de signer un armistice. C'était trop tôt. Et alors, le 5 janvier commence finalement un nouvel épisode, c'est celui des bombardements. Et vous dites que c'est finalement la première fois dans l'histoire qu'il y a un bombardement délibéré, voilà, et de population civile.
La première et la dernière fois pour ce qui concerne Paris. Toute la partie sud de Paris, tout le quartier latin, a été bombardée du 5 au 22 janvier 1871 par les Prussiens qui avaient fait venir par chemin de fer des canons lourds depuis l'Allemagne et qui méthodiquement bombardaient. Alors curieusement, d'après les échos qu'on peut en avoir, les Parisiens ont pris ça presque avec le sourire, presque en badinant. On raconte que les gamins de Paris revendaient des éclats d'obus encore tièdes, les revendaient autour d'eux pour se faire un peu de sous, pour avoir de quoi manger. Toujours est-il que les obus sont tombés sur le Panthéon, sur le Val-de-Grâce, sur des hôpitaux, sur des établissements religieux. Et donc, curieusement, ce bombardement de Paris, qui était quand même la grande ville européenne, n'a pas suscité l'indignation parmi les voisins européens. Peut-être parce que tout le monde savait qu'il fallait en finir et que la cause était perdue. Et donc, voilà, Paris a été bombardé. On a des gravures qui montrent précisément, je pense, un balcon au coin de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel, un immeuble qui s'était à moitié effondré. Et on voit très, très bien, parce qu'il faut se souvenir que ce Paris du siège de Paris, c'est le Paris que nous connaissons aujourd'hui. Le baron Haussmann était passé par là. Et donc, il n'y avait pas la tour Eiffel, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas le métro, mais c'était le même Paris. Donc, le Paris que nous connaissons, que nous aimons, est devenu un champ de bataille.
Et alors, pour finir, il y a une dernière tentative de sortie militaire qui s'est soldée par un échec. Et le moment était venu des négociations, finalement.
Voilà, c'est-à-dire que cette dernière sortie, qu'on a appelée la sortie de Buzenval, qui s'est dirigé vers le Mont-Valérien, vers Saint-Cloud, etc. Cette partie-là, c'est un peu la dernière concession que le gouvernement de la Défense nationale a faite aux Parisiens en disant « Bon, vous voulez sortir ? Ben d'accord, on va sortir. » Mais les militaires savaient que c'était voué à l'échec. Donc il pleuvait, tous les champs autour de Paris, à cette époque-là, c'était des champs dans la banlieue ouest, dans ce qui est aujourd'hui la banlieue ouest, étaient détrempés, les colonnes se sont embourbées, il n'y avait aucune coordination entre les différentes colonnes, donc c'était un échec militaire absolu. Et il y a eu plusieurs milliers de morts, et donc là à ce moment-là, le moral de Paris a été atteint dans son cœur, et il n'y avait plus qu'une seule solution, c'était de négocier l'armistice, ce qu'ont fait dans les heures qui ont suivi Adolphe Thiers et Jules Favre.
Alors, quelles ont été les conditions de cet armistice ?
Ah, elles ont été terribles. Elles ont été terribles. Ça a été un traumatisme absolu. Il y a eu d'une part une indemnité de guerre de 5 milliards de francs, qui était quand même une saignée à l'économie française. Heureusement, l'économie française se portait remarquablement bien à cette époque-là. On était à la fin du Second Empire, qui avait quand même marqué la révolution industrielle et le développement. Et puis surtout, il a fallu la mort dans l'âme, céder l'Alsace et la Lorraine, cette amputation du territoire national. On a les comptes rendus de l'Assemblée nationale qui se réunissait à Bordeaux à ce moment-là, quelques jours après l'armistice. Et les députés alsaciens et mosellans ont fait part de leur immense tristesse, de leur désarroi, sachant que cette partie du territoire français allait désormais nous quitter jusqu'en 1914. Et donc cet armistice et les conditions très dures de cet armistice ont alimenté ce sentiment de revanche qui nous a conduit tout droit jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Et chez les Parisiens, le traumatisme de ce siège est-il resté longtemps ? On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est oublié, mais dans les familles, cela a dû se transmettre.
Alors oui, c'est oublié. Pourquoi ? Parce que quelques semaines après, eh bien, il y a eu cette guerre civile de la Commune, ces 72 jours de la Commune. La Commune a duré très peu de temps, elle a duré moitié moins longtemps que le siège de Paris. Et puis, voilà, toute la partie est de Paris, la partie radicale, la partie révolutionnaire, la partie qui avait été poussée à bout pendant ce siège, eh bien, n'a pas supporté de voir les Prussiens défiler aux Champs-Élysées, surtout n'a pas supporté que l'armée régulière, l'armée française, vienne récupérer les canons sur la butte Montmartre. Et donc, deux généraux ont été massacrés par le peuple de Montmartre, le 18 mars 1871. Cette partie de la capitale a fait sécession. Et ensuite, ce double traumatisme de la guerre civile et du siège de Paris se sont complètement fondus dans ce qu'on appelle la semaine sanglante, c'est-à-dire fin mai 1871. L'armée française a réprimé l'insurrection et il y a eu plusieurs milliers de morts. Les estimations varient entre 5 000 et 15 000 morts, mais ça a été une répression absolument sauvage qui a permis d'une certaine façon de mythifier la Commune. Et pour les Parisiens aujourd'hui, on parle beaucoup plus facilement de la Commune que du siège de Paris.
Et aujourd'hui, quelle est la postérité de cet événement du siège de Paris ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce que
Alors,
certaines oppositions
il y a une double
vous inspirent
postérité.
Pour aujourd'hui ?
Il y a une postérité folklorique. Alors on parle des ballons qui ont permis aux courriers des Parisiens de s'élever dans le ciel pendant le siège de Paris. On parle du pain du siège, on parle des éléphants du Jardin des Plantes qui ont été tués pour fournir de la viande aux Parisiens. On parle du rat qu'on a beaucoup mangé, les animaux de compagnie, etc. Et puis moi je pense qu'il y a aussi un héritage politique. Je pense que d'une certaine façon, l'épisode que nous avons vécu des Gilets jaunes à Paris pendant toute une année est un lointain écho de cette tension que nous avons vécue pendant le siège entre les républicains libéraux et les républicains radicaux. Car parmi les revendications des Gilets jaunes, vous aviez exactement les mêmes revendications que ceux qui ont été portées par les radicaux pendant le siège, qui ont tenté d'investir les bâtiments publics, qui ont tenté de déclarer la Commune. Ils le feront quelques semaines plus tard. C'est donc la démocratie directe, les tribunaux populaires, le référendum d'initiative populaire, le mandat révocatoire pour les élus, la détestation des élites. Et on retrouve cette ligne de force dans cette aspiration populaire radicale qui s'est manifestée à la fois pendant le siège de Paris, puis dans la Commune, et plus récemment pendant cette année parisienne des Gilets jaunes.
Eh bien, un grand merci Frédéric Mounier. Je rappelle le titre de votre livre, Le siège de Paris, une histoire française, quand le peuple voulait la guerre, et c'est aux éditions du Cerf.
Merci à vous.